Vous savez qu'il pleut depuis 37 jours non-stop. C'est un record. 37 jours de pluie. Alors, pas partout. Je sais qu'à Marseille, vous allez me dire, il y a un climat particulier.
Pas non-stop. Il pleut pas toute la journée, mais il a plu tous les jours.
Il a plu tous les jours en France depuis 37 jours. La tempête Pedro arrive, avec bien sûr son lot de pluie, de vent, sur des sols qui sont déjà fragilisés, inondés. Angers, la ville d'Angers, est en train de vivre une crue historique et on a une pensée pour nos amis du Maine-et-Loire, c'est l'un des départements les plus touchés. La Garonne déborde du côté de Libourne. Il y a une crue inédite à Bordeaux. Bref, c'est quand même l'enfer. Des gens qui ont les pieds dans l'eau, qui sont en train parfois de tout perdre. On évalue déjà à 1 milliard d'euros les dégâts de ces tempêtes à répétition de cet hiver pourri. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que les spécialistes nous disent qu'avec le dérèglement climatique, malheureusement, ça va se reproduire. Il y a un Français sur quatre qui vit en zone inondable. Est-ce qu'il va falloir faire déménager les gens, par exemple? C'est une question qui va se poser.
Là, il va falloir du courage politique, parce que c'est vrai que les écolos nous avaient prévenus depuis longtemps. Je parle des vrais écolos, pas des radicaux, bien entendu. Et pendant longtemps, on s'est moqué d'eux. C'était un petit peu ces gens aux cheveux crasseux qui fumaient du shit et qui venaient nous embêter dans notre quotidien tranquille. Mais la réalité, c'est qu'on est prévenus et il faut du courage politique. Il va falloir dire à des gens de déménager, il va falloir les accompagner et il va falloir repenser l'aménagement du territoire en réalité. Parce que ces épisodes, surtout qui sont très instables, c'est-à-dire ça peut arriver en hiver, au printemps, en été, on ne sait pas à quoi s'attendre et on ne peut pas rester à continuer à subir. Il y a des morts aussi, des fois de temps en temps. C'est extrêmement compliqué. Donc oui, il faut repenser l'aménagement du territoire en France et colmater les erreurs du passé, parce que on a donné des permis de construire à tire-larigot, en s'en fichant totalement de l'aspect sécuritaire.
Après, les gens quand ils achètent ou quand ils font construire, ils le font en connaissance de cause.
Bien entendu.
Parfois moins cher aussi. Et puis il y a toujours une volonté d'être pas loin d'une rivière,
oui,
au bord de
mais
mer.
Quand tu as un coup de foudre pour un terrain, tu penses pas à ça forcément.
Non, tu penses que tu t'en sortiras.
Voilà, exactement.
C'est PLU qui doit être fait correctement de base.
Exactement. Donc il faut un accompagnement et il faut repenser tout cela, parce que sinon on va en perdre encore du
Antoine
monde.
Antoine Dias.
Les questions de gestion des milieux aquatiques, les questions d'hydrographie sont des sujets complexes. Moi, je vis à Dunkerque. Dunkerque, il faut bien imaginer que c'est un territoire quasiment entièrement gagné sur la mer. C'était des marais jusqu'à les années 1500. Et l'homme, par sa capacité à établir des digues, drainer les sols, il y a le canal exutoire chez nous qui, avec chaque marée, retire l'eau de l'intérieur des terres. L'homme est en mesure de gérer l'eau. Ça demande beaucoup de technicité, beaucoup d'argent, des investissements dans les digues, de l'entretien des canaux. Et on a oublié toute cette technicité ces dernières années. On a arrêté d'entretenir nos canaux, de mettre de l'argent dans l'entretien de nos digues, etc. Et on se réveille un peu tard. Il y a effectivement un effet réchauffement climatique, il y a un effet climatique, mais on ne peut pas le mettre que sur ce plan-là. L'homme a partout, au travers des siècles, façonner ces espaces, drainer des terrains. La forêt des Landes, c'était un marais immense. Aujourd'hui, on nous dit « belle forêt », mais c'est l'homme qui a planté cette forêt pour assécher un marais. Et donc, il faut absolument qu'on reprenne en main la façon de gérer les eaux, qu'on se remette dans des plans d'aménagement du territoire, s'il faut refaire des digues, s'il faut redrainer, réassécher.
Il faudra beau faire des digues, il y a des endroits qui seront inondés quasiment chaque année.
Ben, peut-être. Et donc ceux-là, on fera déménager les gens. Mais il y a plein d'endroits qu'on peut préserver juste par de l'ingénierie, du travail et de l'investissement. Et ça, tout le monde l'oublie. Tout le monde est face à la nature et pense que c'est la fatalité. Il va falloir partir. Non, l'homme a façonné les sols, façonné la terre, et l'homme fait face aux aléas climatiques depuis toujours.
Laura D'Arto-Martinez.
Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais on ne peut pas mettre ça uniquement sur l'écologie. Il y a quand même des choses qui ont arrêté d'être faites, comme je ne vais pas répéter ce que vient de dire Antoine. Je pense aussi aux rivières qui étaient nettoyées par les agriculteurs, que les écologistes ont interdit de faire parce que ça tuait la petite grenouille ou je ne sais guère. Mais il y a aussi autre chose. Il y a eu un développement des PLU qui a été monstrueux. Donc, des fois, même des maisons qui n'étaient pas forcément en risque d'inondation, des PLU qui ont été étendues pour accroître une agglomération, a fait que des maisons sont devenues en zone inondable. Il y a eu quand même pas mal de PLU de complaisance, c'est-à-dire de l'argent pour une campagne si tu m'octroies le PLU pour que je puisse mettre mon supermarché. Il y a eu tout. Donc, la responsabilité, elle est à tout à chacun. Oui, on doit remettre de la technicité dans la prévention pour éviter que ça arrive. On doit réentretenir toutes nos zones, nos zones, naturelles.
Milieux aquatiques.
On doit redonner le pouvoir à nos paysans de s'occuper correctement des forêts. On doit aussi également faire en sorte que les forêts doivent être de nouveau entretenues correctement, recréer des réels domaines forestiers. Et on doit peut-être vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau des PLU octroyés par la mairie ou par les préfets.
Ouais. Et en même temps, tu as une pression au logement. Et en même temps,
il faut bien loger les Français.
Mais tu peux, au lieu de t'étaler, le problème des PLU maintenant, c'est qu'on centralise tout et tu l'étales un peu plus. C'est-à-dire que tu ne fais pas des blocs urbains qui viennent tout détruire et qui.
Ah bah c'est tout le contraire. Au contraire, moi je pense qu'il faudrait accepter de monter en hauteur dans les villes, d'avoir des vraies hauteurs. Dès que tu as une ville moyenne,
c'est sûr que par exemple, quand tu as une maison à deux étages, c'est plus simple de se protéger des inondations.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il faut aussi éviter l'étalement urbain qui fait qu'on a été construire le pavillon supplémentaire au bout du village près de la rivière.
C'est ce qu'elle a dit aussi.
Je me suis peut-être mal exprimé. C'est justement de continuer à étendre autour de la ville.
Ça, il faut plus le faire.
On dit exactement la même chose.
Mais donc, donner des droits aux gens pour construire plus haut. En France, on a un problème avec l'urbanisme haut. On va faire une tour, c'est honteux. Mais non, au contraire, la tour, si on fait une tour en ville, c'est pour protéger nos espaces
naturels. Parce que certains vont dire c'est moche les tours.
Ah oui, mais non.
Moche, je préfère que ce soit moche ou de perdre ta maison.
Il vaut mieux faire de l'urbain plus haut, des semi-collectifs, etc., que de devoir aller construire le pavillon à côté de la rivière qui sera inondée.
Voilà. Parce que ça a un coût, je disais 1 milliard d'euros, c'est une première estimation. Je pense que ça sera beaucoup plus des dégâts causés par ce que nous vivons. Et il y a des morts, même si il faut reconnaître qu'il y a sans doute moins de morts que les années précédentes, parce qu'il y a quand même aussi de la prévention plus forte. On reçoit des alertes.
Mais la prévention,
les prévisions météo sont de plus en plus précises.
Les gens font plus attention, mais tu regardes, on en a parlé la semaine dernière, les poteaux électriques qui s'effondrent sur les maisons. Pardon, mais quand tu sais que tu es dans une zone où il va y avoir des. Qui est à risque de tempête ou d'inondation, tu peux lester les poteaux pour éviter qu'ils s'effondrent sur les maisons.
Si vous êtes en train de vivre ces inondations, les pieds dans l'eau et toutes les conséquences désagréables, appelez-nous au 3216 pour nous raconter ce que vous vivez, notamment du côté de la Gironde, très touché, du Maine-et-Loire, ce département, la ville d'Angers, qui est en train de vivre une crue historique. Et en fait, c'est désespérant parce que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que, alors, a priori, à partir de ce week-end, il y a moins de pluie, mais enfin, c'est semaine après semaine, il y a des habitants qui subissent ça. Nous sommes justement avec Julien, qui est du côté de l'Hérault. Bonjour, Julien.
Bonjour, Julien.
Julien en direct dans les grandes gueules, en direct de Marseille. Julien, artisan peintre. Vous êtes du côté de l'Hérault. Vous êtes touché par ces inondations en ce moment ?
Non, on n'est pas touché par ces inondations. On l'a été il y a quelques années. Là, effectivement, il a quand même beaucoup plu pour la région. Mais on n'a pas été tellement inondé une fois, je crois. Mais c'était pas non plus, c'était pas pharaonique.
Terrible. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait par rapport à notre débat ?
Ben, c'était surtout en fait par rapport au cours d'eau, un des intervenants en a parlé. Maintenant on peut plus nettoyer les cours d'eau principalement, ce qui fait qu'en fait ils rétrécissent, et forcément quand il y a des grosses pluies comme ça, les niveaux montent. Avant on nettoyait les cours d'eau, on coupait les arbres morts, on enlevait le surplus de sable, de gravats, de pierres qui les encombrait, ce qui fait que l'eau pouvait circuler. C'est les écolos. C'est les écolos, tout simplement. On peut plus essayer de descendre avec une pelle dans une rivière ou quoi que ce soit pour couper un arbre. On se fait presque traiter d'assassin. Donc, nous, on a eu le cas il y a quelques années sur une ville à côté de chez moi qui s'appelle Valorogue, où il y a eu, c'est de mémoire, en 2016, je crois, ou 2017, il y a eu une énorme inondation. Et en fait, ils se sont aperçus après que ça venait en partie de là. Bon, il était tombé. Il était tombé quelque chose de sérieux. Alors, quand même.
Ça aussi, mais enfin, il y a aussi la bétonisation, c'est-à-dire qu'on a aussi, voilà, c'est l'urbanisme,
permis à
et des sols qui laissent plus passer l'eau. Bon, c'est compliqué.
Oui, maintenant, il commence à y revenir, parce que dès qu'on veut bétoniser quelque part, il faut débétoniser ailleurs la même surface. Mais le problème, c'est que c'est trop tard. Il faudrait rendre les sols beaucoup plus perméables que ce qu'ils sont. Et maintenant, avec effectivement l'urbanisation, les villes qui s'étendent au fur et à mesure, c'est devenu maintenant, on est pris dans le système est comme ça. Pour revenir en arrière, au niveau où il faudrait, c'est compliqué. Donc faire des digues et tout, c'est bien, c'est une idée, mais c'est pas ce qui va, c'est pas une solution pérenne, quoi, on va dire.
Il y a les digues et puis il y a des zones dont on accepte qu'elles soient inondables. C'est-à-dire que toute la gestion d'un bassin hydrographique, c'est de dire que si jamais on devait faire face à une crue exceptionnelle, on sacrifie tel champ où il n'y a pas d'habitation et l'eau va être orientée vers cet endroit. C'est aussi être en mesure d'orienter l'endroit qu'on va inonder plutôt que d'inonder un espace urbain. Donc la digue ne règle pas tout, mais elle permet de gérer les flux d'eau.
Merci Julien, merci d'avoir appelé au 3216. Il ne faudrait quand même pas à chaque fois taper sur les écolos qui seraient responsables de toutes ces inondations.
S'il
c'est un peu
pleut, facile. C'est clair, mais surtout,
voilà, s'il plus, pleut, c'est quand même pas la faute des écolos.
Mais surtout, il y a un truc, c'est que le temps en fait, que l'on perd à essayer de rattraper le retard parce qu'on est débordé par les inondations, c'est du temps aussi que l'on ne prend pas pour réfléchir à comment récupérer cette eau peut-être pour des temps de sécheresse qui peuvent arriver.
Ça, c'est l'été. Le débat sur les méga-bassines.
Voilà, attention, Abel.
Bah oui, mais en réalité, il faut tout remettre sur la table.
C'est vrai que là, en ce moment, on pourrait stocker de l'eau.
Mais bien entendu.
Et donc, c'est fascinant. C'est-à-dire que les écolos qui se plaignent de ça vont interdire de faire une méga-bassine. Alors même que tout ça se tient. Il faut juste accepter que l'homme participe à la gestion de la nature.
Exactement.
Oui, non, c'est vrai que là, les méga-bassines, elles seraient vite remplies. Jérémy est avec nous du côté de Bordeaux. Et Bordeaux, c'est une des villes touchées par ces crues exceptionnelles. Racontez-nous, Jérémy, comment ça se passe à Bordeaux. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour. Eh ben, écoutez, bonjour, c'est compliqué. Moi, je suis livreur, donc forcément, on voit le retour terrain en live. Et là, par exemple, tout le quartier Bastide, il y a une bonne partie qui est inondée. Donc déjà, ça, on ne peut pas y accéder. Donc même pour travailler, c'est compliqué, quoi.
Ah oui, vous ne pouvez pas vous déplacer ou alors avoir un bateau, mais...
Ouais, on livre pas encore en bateau. Hein. Nous, on fait de la livraison à vélo, d'ailleurs, on n'est pas en voiture. Donc, il y a une partie de Bordeaux qui est accessible dans le centre, mais par contre, l'autre côté, non. Et du coup, hier, on a coupé le service parce que c'était compliqué. Même les rafales. Hein.
Vous aviez déjà vécu ça, Jérémy, à Bordeaux?
Bah oui, il y a eu la tempête. Alors, désolé, je me rappelle plus du nom, il n'y a pas longtemps, là, où il y a eu des sacrées rafales aussi. Et on s'est retrouvé un peu. La Garonne n'avait pas débordé, mais c'était quand même dangereux. Et là, c'est vrai que du coup, c'est un peu déprimant, quoi.
Et aujourd'hui, il pleut encore à Bordeaux?
Ah oui, 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 par vagues. C'est des vagues assez intenses. Ah. Là, de ce que je vois, non. Je suis rentré justement me changer parce que j'étais déjà trempé. Malgré l'équipement, au final, on subit de plein fouet la météo. Après, on a l'habitude, ça fait un mois qu'il pleut quasiment non-stop. Et donc, je suis rentré me changer et là, on va ressortir à la guerre, quoi.
Ah oui. Donc ça paralyse quand même une partie de la vie économique, quoi, de la ville. Puis ça dure, surtout ça, le problème, Jérémy. Ouais, bon courage à vous.
Je vous en prie, merci.
Bon courage à vous du côté de Bordeaux, où on est obligé de livrer sous l'eau, quasiment à vélo, pour pouvoir continuer à bosser. Ouais, mais c'est pas mal parce qu'on est quand même à 3 semaines des municipales. Ça va être un enjeu, ça. Il faut aussi que les gens aillent voir leur maire, interrogent qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les décisions à prendre. Parce que là, tout le monde est catastrophé. Et puis bon, l'eau va partir, on va passer à autre chose et ça va recommencer.
On n'est pas dans l'anticipation, on subit une situation et on est dans la réaction. Comment faire pour qu'il n'y ait pas la situation de trop? Parce que les Français, ça fait partie des sujets qui vont leur faire péter un câble aussi au bout d'un moment.
À Paris, il y a une projection sur une crue centennale qui doit arriver, la Seine doit déborder, les services de l'État et de la ville s'y préparent plus ou moins, mais un certain nombre de personnes disent que le Louvre pourrait être largement inondé faute d'avoir anticipé cette crue centennale. Donc,
allez, on va laisser le mot de la fin à Jean-Paul qui nous appelle au 3216. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes du côté de la Gironde, là. C'est un département qui est en rouge depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, 10 jours au moins, je crois, Jean-Paul. Racontez-nous ce qui se passe.
Eh bien, alors, on a eu un gros débordement de la Garonne. Alors, déjà, la tempête, on a eu une coupure d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, j'ai réussi, on a sauvé, nous, chez nous, le congélateur avec un groupe électrogène, le contenu. Mais on n'avait pas de chauffage et pas d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, on a été hébergés chez mes parents avec les enfants.
D'accord.
Et ensuite, on a pu rentrer et là, c'est l'eau. On n'a plus d'eau potable. En fait, la Garonne a débordé, a contaminé le réseau d'eau sur plusieurs communes aux alentours.
D'accord. Donc, il n'y a plus d'eau potable chez vous.
C'est ça. On peut plus boire l'eau. On peut plus laver les petits, se brosser les dents, cuisiner avec. Donc, on a des distributions de packs d'eau à la mairie tous les jours.
Voilà. Et on vous dit quoi à la mairie? Ils vont rétablir les choses rapidement ou pas?
Ils ne savent pas trop. Mais pour le moment, la Garonne est toujours très haute. En fait, il y a plusieurs ponts qui ont été coupés à cause de la montée de la Garonne. En fait, sur une bonne trentaine de kilomètres, il n'y avait plus qu'un seul pont disponible. En fait, tout le monde devait passer que par un seul pont. Là, un pont a réouvert qu'à partir d'hier, donc la Garonne est toujours très haute en fait. Hein, puis là, bon, on a eu un peu peur avec la tempête Pedro. Cette nuit, il s'est rien trop passé. Enfin, ça a l'air d'aller. Ouais. Mais la Garonne remontait un peu en fait à cause de cette tempête et des marées, des forts coefficients de marée. C'est très long à redescendre.
Vous avez regardé les prévisions que dit la météo pour les prochains jours?
Ça va se calmer. Apparemment, ça devrait se calmer sur la pluie, mais c'est surtout l'histoire des marées qui fait que ça ralentit la baisse de la crue.
Oui, il y a de forts coefficients de marée, et donc il y a ce risque de crue, de vague submersion, comme on dit, de crue derrière. Ah. Jean-Paul, bon courage à vous.
Mais merci beaucoup.
Et puis merci d'écouter les GG, même les pieds dans l'eau et sans eau potable. Ça, c'est quand même, c'est compliqué. Merci Jean-Paul d'avoir appelé au 32-16.